Défaite importante pour les Alouettes de Montréal qui s'inclinent et glissent du premier au troisième rang dans l'Est, mais surtout ratent cette opportunité de se qualifier pour les matchs éliminatoires en s'inclinant 19-14 face aux Rough Riders de la Saskatchewan. On en parle avec Bruno Eppel qui est avec nous. Salut Bruno!
Hey Jérémy, comment ça va?
Ça va super bien. Écoute, c'est une défaite importante pour les Alouettes. Un premier temps, je veux juste que tu me parles de la prestation des Alouettes, parce qu'on sait, Matthew Shields a quitté au troisième quart, c'est Trevor Harris qui est arrivé, mais dans l'ensemble, c'était un match âprement disputé, mais beaucoup d'agressivité entre les deux équipes.
Oui, ben écoute, c'est deux équipes super physiques, c'était les deux équipes les plus indisciplinées de la Ligue à l'arrivée du match, puis ça a eu l'air de ça un petit peu, on s'est presque pris à la gorge là en rentrant au vestiaire après l'échauffement, juste vous donner une idée de ce qu'il y avait comme atmosphère dans ce match-là, puis ces deux équipes qui font pas dans dentelle, particulièrement les Alouettes en attaque, puis la défense des Riders de Saskatchewan. Puis là, force est d'admettre que, malheureusement, oui, on a été très physique, mais les Alouettes ont perdu cette guerre-là un petit peu hier de la robustesse, la ligne offensive. Ça nous a rattrapés, là. Tu sais, il y a eu plusieurs blessés dans les dernières semaines. On s'en parlait, toi et moi. Là, on avait deux recrues qui, à un moment donné, qui jouaient dans le match avec Thomasin et Patrick Davis comme centre et garde. Tony Washington, le vétéran, a connu un match de misère. Christian Matt a pris une pénalité vraiment qui a fait mal à son équipe. C'est un vétéran qui fait jamais ça. Tu sais, quand c'est une journée qui va mal, là, sa ligne, ben, ça a été ça un petit peu. Puis c'est un petit peu compréhensible dans la mesure où, je viens de te le dire, là, on a des blessés de ce côté-là. Il nous manque un paquet de joueurs. Puis là, t'affrontais plus Ottawa, là. T'affrontais les Riders de Saskatchewan qui ont une ligne défensive complètement hallucinante. Puis le résultat, ben, c'est que Matt Schultz et même Trevor Harris, on va en parler plus tard, mais Matt Schultz a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à se mettre à l'œuvre parce qu'il était constamment pressé par la ligne défensive des Riders de Saskatchewan.
Il y a un jeu à un moment donné où on est troisième et un, on peut aller chercher le premier jeu, il y a un joueur de ligne des Alouettes qui est blessé, on amène un réserviste et on n'est pas capable d'aller chercher cette verge nécessaire-là pour aller chercher le premier jeu. J'ai l'impression que c'était un moment, un tournant dans le match, est-ce que je me trompe?
Ben non, ben il y en a eu une couple de tournants, mais ça c'est un bon point parce que celle-là, pour moi, on aurait dû dégager, on va te le dire, là. On aurait dû réviser notre décision et dégager. Parce que on venait justement, tu viens de le dire, de perdre Foucault, qui venait de se blesser, le garde à gauche. Et là, c'est Thomasin qui arrivait, qui allait s'aligner à côté de Patrick Davis pour un troisième et un face à une ligne défensive qui nous avait donné du fil à retordre tout au long du match. Et évidemment, ben, ce qui est arrivé, arriva, là, on s'est fait détruire du côté gauche de la ligne. Tony Washington, Thomasin et Patrick Davis ont eu toutes les difficultés du monde. Puis Matt Shields n'a jamais eu de chance de même aller chercher le premier jeu. Puis ça, c'était un revirement sur essai, sur un endroit du terrain où on aurait pu refouler l'adversaire. T'sais, fait que moi, tant qu'à moi, ça, c'était une décision que j'aurais peut-être aimé les entraîneurs ne pas prendre. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu plein de moments où on était en position de placement. À un certain moment donné, on a pris une pénalité, ça nous a reculé, ça nous a forcé à dégager. On a raté notre dégagement sur le jeu suivant. Finalement, les Riders ont repris le ballon pratiquement où on avait dégagé, tu sais, au lieu d'avoir un placement à trois points. L'interception de Matt Shields, on était en position de faire un placement au moment où on a pris possession du ballon. Puis on lance une interception. T'sais, on a manqué beaucoup, beaucoup d'opportunités du côté des Alouettes, particulièrement avec des mauvaises pénalités puis des revirements à des mauvais moments. Là.
Parlons de Matthew Shields, lui, qui a connu quand même un bon début de match, respectable. Après la première interception, on l'a senti ébranlé un peu. On a l'impression qu'il n'y avait plus la même confiance. Puis finalement, on l'a vu sortir du match au troisième quart, fin du troisième quart, pour voir arriver Trevor Harris. Mais parle-moi du match de Matthew Shields.
Ben, je pense que Matt Shields, ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est, tu sais, oui, il avait fait des bons matchs, mais il avait fait des bons matchs contre des équipes ordinaires. Là, on a vu un petit peu ses limitations, je te dirais, dans ce match-là. C'est un bon corps, mais c'est pas le corps qui peut prendre ça sur ses épaules. En tout cas, moi, c'est pas l'impression que j'ai eue. Puis c'est bien défendu, puis il faut le dire, je l'ai dit, là. Tu sais, il n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il y avait une ligne à l'attaque décimée par les blessures devant lui, puis il se faisait brasser. Là, Donc, la décision d'y aller avec Trevor Harris, moi, je pense que ça s'imposait dans la mesure où c'était évident que Matt Shields ne créerait rien dans ce match-là. Là. C'était ça. Si on regardait Matt Shields dans le match, il n'y avait rien qui allait se passer de plus que ce qui s'était passé, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est pas juste à cause de lui, mais à un moment donné, on avait besoin d'un spark, comme on dit en anglais, là, d'une étincelle. Puis Trevor Harris nous l'a quand même relativement donné, je te dirais. J'ai bien aimé le match de Trevor Harris, parce que les Riders finissent avec 5 sacs du corps. Ils auraient pu finir avec presque 10. Trevor Harris a fait manquer au moins 3 sacs du corps lorsqu'il était dans la mêlée pour compléter des passes. Il a complété 80% de ses passes, une passe de toucher, pas lancé d'interception. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, là, mais on s'en va jouer contre Winnipeg. Je ne peux pas croire qu'on va pas y aller avec Trevor Harris. J'ai bien hâte de voir comment la semaine d'entraînement va se dérouler.
Oui, Kerry Jones a dit « Je sais qu'il sera mon corps partant, mais je le nomme pas immédiatement. » J'ai l'impression, tu sais, au coup rendu là, dis-lui que ça va être Trevor Harris, puis on se trompera pas.
Ben, c'est lui qui a prouvé le plus de choses dans cette ligue-là. Là, puis il est loin d'avoir eu l'air fou là, dans la période de temps qu'il a eu contre les Riders. Loin de là, vraiment. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Puis il y a juste 2 semaines de pratique. Là, ça te donne une petite idée de ce qu'il pourrait peut-être être capable de faire avec une semaine complète de préparation avec l'équipe partante des Alouettes. Là.
Fait que là, tu imagines que les Alouettes, je le disais en introduction, prennent le troisième rang.
Ouais.
Liste du premier au troisième rang. Et en plus, les 2 prochains matchs, c'est contre les Blue Bombers de Winnipeg, la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football. Il me semble que là, il va falloir être discipliné. Les jeux de base doivent être faits. Il va falloir avoir la concentration à 100% parce que sinon, ça va être des carnages. Là.
Tu peux pas vraiment. Là, les Blue Bombers, en plus, vont avoir eu une semaine de repos. Ils ne jouaient pas en fin de semaine. Eux, ils sont premiers de leur section, c'est assuré. Pour l'avoir vécu dans le passé, des fois, ça fait qu'il y a une petite baisse de régime dans ton équipe. Là. Ils sont 10-1, il n'y a plus personne qui peut les rattraper. J'ai hâte de voir si les Blue Bombers vont pas reposer aussi certains joueurs, peut-être plus pour le deuxième match ici à Montréal, peut-être qu'ils vont décider de reposer des joueurs ou s'il y a des joueurs de blessés, d'amochés, on les amènera pas en voyage jusqu'à Montréal. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point ça va peut-être venir aider les Alouettes à au moins gagner un de ces 2 matchs-là, mais c'est évident qu'en ce moment, si les Blue Bombers jouent à plein régime, pendant 2 semaines avec tous leurs partants, lorsqu'ils affrontent les Alouettes, ça va être très, très difficile pour les Alouettes, particulièrement les gagner la semaine prochaine à Winnipeg. Là.
Bon, prenons quelques instants maintenant, Bruno, si tu veux bien parler de la NFL, 8e semaine d'activité. Les Browns qui vont affronter les Steelers. Les Browns, 4 victoires, 3 défaites face aux Steelers qui sont 3 victoires, 3 défaites. Est-ce que Big Ben, du côté des Steelers, a fait des cauchemars en pensant à ce match-là, parce qu'il faut juste mentionner aux gens que le 10 janvier dernier, c'était 28-0 au premier quart pour les Browns contre les Steelers. Tu sais, c'était pas le fun pour les Steelers de Pittsburgh. Là.
Ben non, bon, ça rappelle, c'est la fin du match où Big Ben était assis sur le banc en pleurant avec son joueur de centre, puis il pensait que c'était la fin. Une prestation, un début de match gênant. Big Ben a fini avec 500 verges, mais 4 interceptions. Tu sais, je veux dire, les 500 verges, c'était pas des calories vides, mais presque. On s'était sorti du match, comme tu l'as dit. Puis là, il faut le dire, ça fait 2 défaites consécutives pour Big Ben. Ça y est jamais arrivé de perdre 3 fois d'affilée contre les Browns. Il y a une fiche de 11-2-1 à Cleveland en carrière. Fait que lui, je pense qu'il veut faire venger cet échec-là. C'est évident qu'il va arriver le couteau entre les dents. La défense des Steelers joue très bien. Puis là, elle va affronter Baker Mayfield, soit dit en passant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, ce gars-là, on savait même pas qu'il allait jouer. Là. Il a pratiqué cette semaine pour tester son épaule gauche, dans laquelle il y a une déchirure d'un muscle et une fracture. Puis là, il va jouer le match quand même. Et il a dit qu'il avait la motion complète de son épaule, mais tu affrontes quand même une défense que T.J. Watt puis un paquet de gars qui sont capables d'être des bons chasseurs de corps.
Il me semble que ça lève le drapeau un peu pour la défensive des Steelers. Hein?
C'est sûr. Mais non, c'est certain qu'on va tenter par tous les moyens de se rendre et de frapper Baker Mayfield, même si c'est une nouvelle NFL où on tente de protéger les corps. Là, il reste que les corps se font constamment frapper, surtout quand ils affrontent des défenses comme celle des Steelers. C'est un gros pari du côté des Browns, parce que Case Keenum, la semaine passée, a vraiment pas si mal fait que ça dans une victoire des Browns. Donc, moi, je questionne un peu cette décision-là, mais la réalité, c'est que c'est les médecins de cette équipe-là puis l'entraîneur-chef sont mieux placés que moi pour le dire. J'espère juste qu'il va rester en santé et qu'il va sortir de là en pleine forme.
Autre duel, les Bucks, 6 victoires, 1 défaite, vont affronter les Saints 4-2. En fait, c'est l'ancien quart des Bucks, Winston, qui est maintenant le quart du côté des Saints, qui va affronter Tom Brady. Comment tu vois ce duel?
Ben, c'est son premier affrontement contre son ancienne équipe. C'est évident que ça doit être une journée émotive pour lui. C'est évident qu'il va vouloir bien faire. Maintenant, Jameis Winston, dans le passé, il ne faut pas qu'il essaye de trop en faire. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va gérer du côté de Sean Payton, l'entraîneur-chef et le coordinateur offensif, les choix de jeu. On sait, là, les Saints, depuis le début de la saison, là, ils aiment courir avec le ballon à profusion. Là, on vient de rajouter Ingram pour seconder Kamara. On a fait un échange avec les Texans cette semaine, justement pour avoir deux bons porteurs de ballon. Fait que, mais c'est tellement difficile de courir contre les Bucs que ça va finir par tomber sur le bras de Jameis Winston. Et si ça tombe sur le bras de Jameis Winston face à Tom Brady de l'autre côté, ben moi, je vais te prendre les Bucs quand même dans ce match-là, moi, te le dire. Là. Deux bonnes défenses, mais il y a définitivement un corps arrière qui a une meilleure saison que l'autre. Ça, on ne se le cachera pas.
Dis-moi donc, Bruno, est-ce que le fait que Winston, l'ancien quart des Bucks, s'amène avec les Saints, est-ce que les Saints ont pu profiter de ce que Winston pouvait se souvenir dans le livre de jeu des Buccaneers?
Oui, tu vas aller chercher des informations si t'es le coordinateur défensif, peut-être dans la semaine de préparation avec Jameis Winston, mais tu sais, ce sera pas, tu baseras pas juste ton plan de match sur ça, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis 2 ans maintenant. Tu sais, Jameis Winston, il est quand même quitté, ça fait un bout de temps. Les stratégies changent, il y a des joueurs qui sont différents dans cette équipe-là. Fait que oui, mais en même temps, il faut se le dire, la défense des Saints joue déjà très très bien. C'est un match là, qui oppose deux excellentes défensives. Tampa Bay, qui joue en deçà des attentes depuis le début de la saison défensivement, joue de mieux en mieux. Puis les Saints, c'est une des meilleures défenses en ce moment de la NFL. Ça fait que ça donne pour un petit choc de titan. Là. L'attaque de Tom Brady face à une très bonne défensive, celle des Saints. C'est un des bons matchs. Puis c'est un match important pour les Saints parce que si on veut rester dans la course pour le premier rang de cette section-là, ben, il faut pratiquement combattre les Bucks ce soir-là.
Bon, mais ça rend ça fort intéressant. On vous écoute sur les ondes de RDS pour cette grande journée qui va débuter dans quelques instants. Puis Bruno, nous, on se reparle le week-end prochain. Gros merci d'avoir pris du temps pour nous, Bruno.
Plaisir. Salut, bon foot tout le monde. Salut, Jérémy.